Donc ce matin, on poursuit notre série « Envoyés » dans le livre des Actes. Et une des choses qu'on peut vivre quand on lit la Bible, surtout quand on regarde un livre comme les Actes qui est tellement axé sur des choses qui se sont passées, comment Dieu a utilisé l'Église, qu'est-ce que Dieu a fait au travers de l'Église primitive, c'est facile de lire notre Bible et même d'avoir des discussions entre nous en Église, puis ce qu'on va entendre, c'est toutes les choses que je dois faire en tant que chrétien. Faire, faire, faire. Ce qui ressort souvent, puis vous savez, la Bible est pleine de commandements, de choses à faire, et c'est des bonnes choses que Dieu nous demande de faire. Mais souvent, tout ce qu'on va entendre, c'est qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois agir? Et on oublie que la Bible, c'est une histoire qui nous raconte ce qu'un Dieu extraordinaire a fait pour nous, pour nous transformer, pour qu'on puisse vivre de plus en plus à l'image de celui qui nous a transformés. On oublie que la Bible, c'est une histoire qui nous raconte un miracle que Dieu a opéré dans nos vies. Mais on se rappelle constamment, hey, je dois faire ça, je dois faire. Puis parfois, ça devient lourd. Et la raison pour ça, c'est que pourquoi on entend si souvent toutes ces choses qu'on est appelé à faire, c'est que on est facilement tourné vers apporter notre identité dans les choses qu'on fait plutôt que qu'est-ce que quelqu'un a fait pour nous. Et par exemple, quand on va se saluer pour la première fois, on ne connaît pas quelqu'un, bien, probablement que qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est peut-être la deuxième question après comment ça va. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? C'est souvent le genre de question qu'on va se poser. Si, par exemple, on se posait la question « T'es qui, toi? » On serait peut-être plus un peu plus surpris de répondre, mais probablement qu'on répondrait « Ben moi, je suis un pasteur, un ingénieur. » On va souvent s'identifier dans ce qu'on fait. Donc, on va voir ce matin qu'on est naturellement poussé par ce qui donne un sens à notre vie. Les histoires qu'on te raconte qui vont donner un sens à notre vie, et on a déjà vu ça il y a quelques semaines, on est poussé vers ce qui donne un sens à notre vie, mais on va aussi surtout voir que faire l'expérience de Jésus quotidiennement est le moteur de notre obéissance. Donc j'aimerais ça prendre un temps dans la prière avec vous ce matin, et ensuite on va aller dans Acte 22 pour regarder Paul qui fait l'expérience, qui raconte son expérience avec Jésus, la première fois qu'il a rencontré Jésus. Seigneur Jésus, on te prie ce matin que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses venir nous saisir de ton amour, nous saisir de ta grâce, Seigneur. On a tellement besoin que tu nous rappelles qui on est en toi. Malgré tout, Seigneur, je te prie ce matin qu'on puisse être encouragé et que vraiment tu puisses faire une œuvre puissant, qu'on puisse faire l'expérience de ton œuvre en nous ce matin. C'est dans ton nom que je te prie. Amen. Donc, on va lire ensemble les 5 premiers versets pour commencer du chapitre 22. Alors, c'est Paul qui va faire une défense. Il va se défendre devant les Juifs à Jérusalem. Donc, mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors, « Je suis né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi. Hérité de nos ancêtres, j'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. » Donc, Paul se retrouve devant le peuple à Jérusalem et il va se défendre. Il va se défendre de quoi? En fait, on peut voir au verset 28 du chapitre 21 où il va se défendre des fausses accusations des Juifs à son égard. Au verset 28, on peut lire, il criait, « Israélites, au secours, voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. » Donc, Paul fait face à des fausses accusations, des choses qu'il n'a pas faites, et on veut le mettre à mort. Les gens sont zélés pour protéger ce qu'ils croient être la vérité. Mais ce que Paul veut dire à ses frères, à ses pères, aux gens de son peuple, d'où il vient, c'est que ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est vraiment Dieu qui lui demande de faire ce qu'il fait. Donc, Paul va utiliser son témoignage, le témoignage de comment il a rencontré Jésus pour sa défense. Et voici ce qu'on va apprendre de cette histoire. Tout d'abord, Paul commence en disant, « Moi, j'étais un pharisien, puis j'étais l'un des meilleurs des pharisiens. » Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les pharisiens. Une chose est certaine, on voit Jésus dans son ministère sur terre constamment être en confrontation avec les pharisiens. Il critique beaucoup les pharisiens, puis leur façon de penser, puis leur façon de mettre souvent une pression sur le peuple. Quand on parle des pharisiens aujourd'hui, on les compare souvent comme à ces hommes, ces mauvais exemples de religieux qui faisaient les choses juste pour leur propre apparence et pour leur bien. Il y avait une grande hypocrisie que Jésus et d'autres avaient condamné chez les pharisiens. Est-ce que les pharisiens, par contre, étaient seulement motivés par ce désir de fausse apparence? Est-ce qu'on doit dire, les pharisiens étaient seulement motivés par le mal? Est-ce que c'est si simple que ça? En fait, comme tout le monde, les pharisiens sont motivés parce qu'ils donnent un sens à leur vie. Ils agissent de manière à avoir l'approbation de Dieu. Et ils se sont perdus dans leurs croyances, dans les moyens pour atteindre l'approbation de Dieu. Ils ont perdu de but l'objectif et ils ont commencé à idéaliser les moyens. Et en plus, peut-être que les moyens n'étaient pas bons, peut-être qu'ils demandaient des choses au peuple qui n'étaient comme même pas ce que Dieu avait demandé. Mais pourquoi agissait-il ainsi? Pourquoi est-ce que les pharisiens agissaient de la sorte? Quand on regarde l'histoire, on se rend compte et on voit que les pharisiens avaient tellement peur que les Juifs soient à nouveau exilés à Babylone comme ils l'avaient été, qu'ils pensaient que s'ils respectaient toutes les lois, aussi bien les lois écrites de Moïse que la loi traditionnelle orale de leurs ancêtres, Dieu les garderait en sécurité à Jérusalem. Donc on voit que à la base de tout ce qu'ils faisaient, il y avait ce désir de ne pas être exilé, ce désir de rester proche de Dieu, ce désir d'être approuvé par Dieu. Dieu avait puni les Juifs car ils n'avaient pas observé la loi. Alors après un exil de 70 ans, les Juifs ont commencé à monter une clôture autour de la loi afin d'éviter qu'on désobéisse aux lois de Moïse. Cette clôture, c'était des règles préventives qu'on mettait, plus de règles pour s'assurer qu'on ne va pas se rendre à désobéir à la loi, aux règles que Moïse avait mises. Prenons les lois du sabbat, par exemple. Dieu avait simplement dit, « Une journée par semaine, repose-toi et célèbre le Seigneur. Ne travaille pas. » Dieu n'avait pas donné beaucoup plus de détails. Eh bien, les pharisiens ont adopté environ 1500 lois sur le sabbat que le peuple devait suivre. Donc, pour être sûr de rester pur, de ne pas désobéir, de respecter la loi, ils se mettaient à l'écart, non seulement des Romains et des autres païens, mais aussi des autres Juifs qui, pensaient-ils, pouvaient les rendre impurs aux yeux de Dieu, en mangeant avec eux ou en les touchant. Donc, Jésus va leur dire à plusieurs reprises qu'ils respectaient la lettre de la loi, mais qu'ils en perdaient l'esprit. Ils faisaient semblant d'aimer Dieu, par leur prière publique, mais ils n'avaient aucune compassion pour les gens. Donc, ils étaient motivés par cette crainte, par cette peur de désobéir à Dieu. Et en poursuivant cet objectif le plus possible, ils se sont perdus et ça a résulté finalement en un manque d'amour pour Dieu et pour les autres. Parce qu'on a besoin que plus que les règles pour réussir à obéir à Dieu. On a besoin de plus que faire des bonnes choses pour avoir l'approbation de Dieu parce qu'on ne peut jamais y arriver complètement. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous séparés de la présence de Dieu, séparés, incapables d'atteindre Dieu par nos propres actions. Et les pharisiens croyaient qu'ils pouvaient y arriver. Et ils ont mis tellement d'espoir et d'espérance là-dedans qu'ils se sont perdus, ils se sont égarés. Et c'est facile de regarder aux autres, de regarder les pharisiens étaient comme ça, les autres étaient comme ça. Avant, j'étais beaucoup plus religieux. Mais notre cœur est constamment tourné à vouloir prendre des moyens pour s'auto-justifier, pour se donner de la valeur, pour se donner de l'importance, pour avoir cette approbation-là aux yeux de Dieu. Combien d'entre nous, après avoir eu une bonne semaine où on a eu un temps avec Dieu, où on a lu notre Bible à tous les jours, on arrive à l'église le dimanche matin, puis là, on se sent bien. Dieu m'aime, Dieu m'approuve, j'étais proche de Dieu cette semaine. Puis c'est vrai que lire la parole de Dieu, ça donne de la joie, puis ça nous donne le goût d'adorer puis de servir Dieu. Il y a aucun doute là-dessus. Mais que la semaine d'après, on a une mauvaise semaine, on lit moins notre Bible, puis là, on se sent pas digne de venir à l'église ou de dire avec force à quel point Dieu nous aime et à quel point on est aimé de Dieu. Quand on se tourne vers le faire, c'est nous qui devenons le centre de notre motivation puis le centre de notre réussite. Et on ne peut pas y arriver. Mais Paul, tout comme Paul, était dirigé par la crainte de Dieu, le désir d'obéir à la loi, mais pour ne pas être puni par Dieu, on est souvent dirigé par ce que nous croyons et fait une différence dans nos vies. On a aussi tendance à idéaliser les moyens pour pouvoir être heureux, pour pouvoir avoir du bonheur, pour pouvoir avoir l'approbation de Dieu ou des gens qui sont importants pour nous. Voici des questions qu'on peut se poser pour répondre à la question « Qu'est-ce qui me dirige? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? C'est quoi les moyens que je prends pour avoir ce que je veux? » Mais des bonnes questions à se poser, c'est « Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui est important dans ma vie présentement? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées présentement? Qu'est-ce que tu poursuis? » J'ai quelques exemples, mais il y en a autant que de personnes qu'on est ici ce matin. Peut-être que tu poursuis la liberté et ce qui est important pour toi, c'est de faire ce que tu veux. Peut-être que tu poursuis ultimement l'authenticité puis tu veux vraiment vivre comme que tu sens que tu es. Peut-être que ton but, c'est de poursuivre le bonheur, faire ce que tu aimes, faire ce qui t'aide à te sentir bien. Peut-être que ce qui dirige, c'est le désir de réussite. Faire ce qui fonctionne, faire ce qui te donne du succès. Qu'est-ce qui me dirige? Dernièrement, on a écouté la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, puis juste parce que c'était vraiment bon, fait que là, j'ai comme écouté des films de Star Wars que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, et j'ai écouté l'épisode numéro 7, qui sont, selon moi, les moins réussis des Star Wars, mais quand même quelque chose d'intéressant dans ce film-là, où est-ce que le personnage principal, qui s'appelle Rey, est sur sa planète et elle veut savoir qui elle est dans la vie. Elle ne connaît pas sa famille, elle ne connaît pas ses parents. Elle attend sur sa planète parce qu'elle s'attend que quelqu'un va venir pour lui dire « Hey, c'est moi ton père, c'est moi ta mère. » Elle veut savoir qui elle est. Et par un concours de circonstances, elle découvre un vaisseau mythique de Star Wars, le Faucon Millennium. Elle se retrouve là-dedans parce qu'elle fuit les soldats du premier ordre, qui sont les méchants dans Star Wars 7. Puis là, elle se ramasse dans l'espace. Elle retrouve un des personnages des premiers films de Star Wars, qui est Han Solo et Chewbacca. Puis là, Han Solo lui offre un travail. Tu peux travailler avec moi sur le Faucon Millenium, puis on va aller se promener partout dans la galaxie, puis on va découvrir plein de choses, puis on va vivre l'aventure, puis ça va être vraiment le fun, tu vas voir. Puis Ray a dit, non, moi, il faut que je retourne sur ma planète. Je dois retourner sur ma planète. Si c'était le goût de l'aventure, de la liberté, de voir des choses nouvelles, de pouvoir être libre, que Ray, elle poursuivait, bien, elle aurait dit oui tout de suite sans hésiter. Mais son désir, c'était de savoir qui elle était. Elle a voulu retourner sur une planète, vivre un peu, quasiment une vie d'esclavage, seule, travailler à la sueur de son front, plutôt que de vivre l'aventure. Bon, malgré elle, et je vais juste vous dire, c'est pour ceux qui n'ont pas vu ces films-là, elle a dû continuer à poursuivre l'aventure, mais son désir, c'était de retourner. Parce que ce qui la motivait, c'était de savoir qui elle était. Et on est vraiment fortement dirigé par les choses qui sont les plus importantes pour nous, qui nous donnent le plus de sens. Mais en nous posant ces questions-là, on va réaliser notre tendance idolâtre à poursuivre des choses qu'on met à la place de Dieu, puis qu'on pense qu'ils vont nous donner plus d'importance et de valeur que Dieu lui-même peut le faire. Et c'est cet exemple-là des pharisiens qu'on peut voir, et même de regarder notre tendance religieuse et pharisienne de mettre notre importance dans des choses pour avoir la faveur de Dieu. Et finalement, de nous mettre au centre de cette équation et que c'est nous qui avons le pouvoir de notre transformation. Mais il y a une bonne nouvelle que ton cœur a besoin de se rappeler à chaque jour et qui peut réellement te transformer à vivre une vie d'obéissance et de sacrifice pour Jésus. Et c'est ce que Paul va raconter à ses frères et sœurs à Jérusalem. Et on voit vraiment son cœur pour le peuple. Parce qu'il voit le peuple qui est aveugle, qui ne comprend pas que Paul est en train de parler du même Dieu qu'ils sont en train de eux-mêmes essayer de protéger. Il dit, vous ne voyez pas. Il dit, moi, j'étais le meilleur des pharisiens. J'étais le best. Là. Comme lui, là, il est en train de faire sa défense en disant, il n'y a pas personne ici qui m'accotait. Je la comprenais, la loi. Je faisais tout ce qu'on devait faire. Je protégeais la voie de Dieu et je voulais mettre à mort cet enseignement, ce mensonge. Il était convaincu que sa façon de vivre, c'était la bonne façon de vivre et qu'il était dans le droit chemin, qu'il était dans la vérité, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et on le voit ici, je vais le lire au verset 6 à 11 du chapitre 22. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur? » Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit « Que dois-je faire, Seigneur? » Et le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va à Damas et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. » Paul part à Damas pour persécuter l'Église. Et l'instant d'une conversation avec Jésus, toute sa vie, tout son monde change. Paul a rencontré Jésus. Il a été surpris par Jésus sur la route de Damas. L'expérience de Jésus change des vies. Si tu es ici ce matin, puis que tu professes que Jésus-Christ est ton sauveur, que tu as cru que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour pour vaincre la mort et tout l'impact du péché, et qu'un jour, il va nous libérer complètement de la présence du péché à cause de sa victoire sur la croix, puisqu'il est vivant et non pas mort. Est-ce que tu sais que c'est un miracle Est-ce que tu sais que Jésus est venu te transformer? Parfois, ça fait peut-être plusieurs années qu'on est chrétien. On vient à l'église dimanche après dimanche, on mange ensemble la semaine, on partage la foi. Et une chose que j'ai réalisée dernièrement, c'est l'importance d'être reconnaissant de ce que Dieu fait dans ma vie, puis de ce que Dieu a fait dans ma vie sur une base régulière, parce que sinon je vais tellement oublier les bontés de Dieu envers moi. Et la plus grande bonté de Dieu envers moi, c'est que j'ai rencontré Jésus. Ta vie est un miracle. Se rappeler ce que Jésus a fait et ce qu'il continue de faire pour nous, c'est tellement important. Romains 3, les versets 9 à 12 disent, « Quoi donc dire, sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme c'est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Mais Jésus nous offre son salut. Jésus nous offre une vie avec lui. Et quand on fait l'expérience de Jésus, c'est pas sur quelle route tu étais ou sur quelle route tu es présentement. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui fait du sens à ta vie? Mais quand Jésus dit, je suis celui qui peut te sauver. Je suis celui qui peut te donner ce que ton cœur désire parce que je t'ai créé et je sais ce que tu as vraiment besoin. Je t'ai transformé. Je peux te transformer. Je peux te donner la vie. Quand on fait cette expérience de Jésus, Jésus change toute notre vie. Quand on réalise ce que Dieu a fait pour nous, notre vie devient une vie d'adoration où on réalise que je n'ai pas ce que je mérite, mais Jésus m'a donné ce qu'il y a de meilleur. Faire cette expérience de Jésus, c'est ce qui nous pousse à l'obéissance. C'est ce qui nous aide à voir tous ces commandements de Jésus dans la Bible et de vouloir avec joie et avec respect et avec un désir de plaire à Dieu, de vouloir suivre la voie de Dieu, de vouloir obéir à sa parole. Mais l'obéissance vient du fait qu'on a réalisé ce que Jésus a fait pour nous. L'obéissance doit toujours être un geste d'adoration, un désir de plaire à Dieu, non pas pour avoir son approbation, mais parce que je me sais approuvé de Dieu. Et Paul va arriver à Damas, il va rencontrer des chrétiens là-bas. Et on peut le voir au verset 16. Où le frère Ananias qui était avec lui, qui va dire, « Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur Jésus. » Ananias reconnaît la véracité de la foi de Paul. Paul, qui était reconnu comme Saul, le persécuteur, qui venait pour faire du mal aux chrétiens de Damas. Ananias reconnaît sa foi et il va dire, « Maintenant, fais-toi baptiser. Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Faire appel au nom du Seigneur est une expression qui pointe vers le salut. Faire appel de la sorte à Dieu, c'est une démonstration de la foi qui sauve et qui est démontrée par le baptême d'eau. Faire appel au nom du Seigneur, c'est ta vie qui maintenant n'est plus rebelle à Dieu, mais c'est ta vie qui cherche à plaire à Dieu et qui cherche Dieu. C'est cette transformation-là que le salut opère dans nos vies. Se faire baptiser représente que nos péchés sont pardonnés. C'est un symbole, une représentation de ce qui s'est passé. Mais plus qu'une représentation, c'est un signe de la repentance et de la complète obéissance à Dieu et ce que Dieu nous demande. Se faire laver à l'extérieur, c'est démontrer ce que Dieu a fait à l'intérieur. Obéir, c'est bénéficier des bénédictions de notre salut. Et ce premier geste d'obéissance que Paul va faire, c'est de se faire baptiser. Et c'est ce que Dieu nous demande quand on fait l'expérience de la nouvelle naissance, qu'on croit que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est notre sauveur. Dieu nous demande de se faire baptiser pour qu'on puisse dire à tout le monde que maintenant, on est son enfant, on est enfant de Dieu. Il nous a sauvés. Donc, obéir, c'est bénéficier des bénédictions de notre salut. Et la question qu'on se pose justement et qu'on a déjà commencé à aborder, mais c'est qu'est-ce qui me porte à obéir avec joie? Qu'est-ce qui rend les commandements de Dieu? Quand Jésus dit « mon fardeau est doux et léger », Jésus lui-même le dit, c'est bon de me suivre, c'est bon de faire ce que je vous dis de faire. Comment est-ce que le vrai changement, l'obéissance est propulsée dans nos vies? Comment est-ce qu'on change? Qu'est-ce qui motive le changement? Est-ce que c'est les règles? Est-ce que c'est la honte? Si on met plus de honte sur quelqu'un, ben on va s'assurer qu'il va faire qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce que c'est la peur? Toutes des choses que peut-être qu'on essaye naturellement dans nos vies ou qu'on impose aux autres parfois. Mais vraiment, le vrai moteur du changement, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est la bonne nouvelle que Jésus nous transforme et qu'il a payé pour tous nos péchés. Le changement produit par l'Évangile, c'est l'Esprit de Dieu qui nous mène à voir ce que Dieu a fait et ce qu'il continue de faire à travers son Fils pour qu'on puisse saisir la beauté de ce qu'il veut pour nous. C'est mon expérience de qui Jésus est et de ce qu'il fait qui me donne le désir d'obéir à ses commandements. Quand on lit la Bible, je vous invite, frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, à chercher tout d'abord, peut-être même une prière que tu peux faire quand tu lis ta Bible. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, je veux voir ton œuvre aujourd'hui. Et je vous garantis que quand on voit Jésus, on va aussi voir tout ce que Dieu nous demande. Mais ça va être avec un désir d'obéir à Dieu et en sachant que c'est Jésus qui nous a donné ce qu'on a besoin pour pouvoir obéir à ses commandements. Cherche Jésus quotidiennement dans ta vie. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Quand Paul a réalisé d'où il venait, qui il était, et ce que Jésus a fait, que Jésus a choisi de l'obéir, Paul a simplement dit, et on le voit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Envoie-moi. » On n'aura pas le temps de voir ça ce matin, mais Paul est même allé à Jérusalem par la suite parce qu'il croyait qu'il était le meilleur pour prêcher l'Évangile aux Juifs parce qu'il dit, « Moi, je les comprends, j'étais comme eux, je vais aller les voir, je vais leur prêcher l'Évangile, j'ai à cœur de leur parler de Jésus. » Il était tellement animé d'un amour pour Dieu puis son prochain qu'il voulait vraiment comme que tout son peuple soit sauvé. Puis Jésus lui a dit, « Non, toi, tu t'en vas prêcher l'Évangile aux non-Juifs. » Et il a obéi. Quand on réalise d'où on vient et que malgré ça, il s'est intéressé à moi. Il m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Il m'accepte, il m'approuve, me donne le pardon. Mais non seulement il me pardonne, mais il choisit de m'utiliser, de faire de moi un disciple qui est appelé à faire d'autres disciples. C'est ça qui nous transforme et nous mène à l'obéissance. C'est notre expérience de Jésus. Autrement dit, l'obéissance est propulsée par un désir de plaire à celui qui a fait de moi qui je suis, malgré qu'il savait qui j'étais. Malgré qu'il sait que je lutte encore, il choisit de m'utiliser. Je peux lui obéir. Pas pour avoir son approbation, mais par sa grâce, parce qu'il m'a dévoilé, il m'a révélé que je suis approuvé et aimé de Dieu. Vraiment, c'est ce que les jeunes enfants nous enseignent sur l'approbation de Dieu. Quand on voit les enfants qui sont avec leurs parents, moi, mon fils Mathis, il y a des gens ici qui pensaient qu'il ne parlait pas encore à 4 ans. Mais quand il est à la maison, il n'arrêtait pas de nous parler, puis il nous racontait ses affaires, puis il nous partageait ses rêves, puis c'est les choses qu'il aimait, puis « Regarde papa, regarde qu'est-ce que je fais, regarde qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, regarde telle affaire, regarde mon Lego, regarde le livre que je suis en train de lire, regarde ça. » Quand les enfants sont avec leurs parents, c'est clair pour eux que quand ils sont dans un endroit sécuritaire où ils se savent approuvés, aimés de leurs parents, ils vont pas juste comme aller devant leurs parents pour, avec une inquiétude de savoir est-ce que mon père il m'aime. Non, c'est souvent dans ces situations-là qu'ils sont le plus libres, qu'ils sont pas gênés puis qu'ils sont capables d'être eux-mêmes le meilleur et le pire. N'est-ce pas? C'est pas vrai pour tous les enfants, mais quand même, ils se sentent libres parce qu'ils se savent aimés et approuvés. Et quand on sait, comme on a chanté ce matin, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est aimé par Dieu, on n'a plus rien à prouver à Dieu. Dieu a tout fait pour nous. Quand on pêche, Jésus dit, je suis mort pour ça, on peut se repentir. Quand on fait le bien, on peut pas le faire pour dire à Dieu, regarde comment je suis bon, parce qu'il va dire, ben regarde, moi je suis mort, puis je suis ressuscité, puis j'ai pardonné les péchés. Il n'y a rien que tu puisses faire de plus grand que ça. Mais par contre, si on regarde, regarde Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi, je t'aime. Dieu nous approuve, Dieu nous accepte, Dieu nous aime. Et on le voit ce matin, comment cet amour pour Dieu est motivé pour un amour pour les autres. Un amour et une passion de partager ce que Dieu a fait pour nous. Et parfois, quand on parle d'évangélisation, puis de partager notre foi, de partager l'évangile aux autres, de dire aux autres ce que Dieu a fait dans nos vies, on se sent pas équipé, on sait pas comment le dire, on sait pas c'est quoi la meilleure façon. On regarde d'autres personnes, on dit, moi je serais jamais game de le faire comme ça. Il y a toutes sortes de craintes. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de parler des sujets qui sont pas des sujets d'actualité et d'intérêt pour tout le monde. Mais une façon que j'essaie de voir, partager ma foi, c'est de parler des choses que j'aime. Et vous savez, moi je réalise que quand je regarde ma propre vie, parfois je suis un bien meilleur évangéliste du sport qu'un évangéliste de Jésus-Christ. Parce que quand il y a quelque chose qu'on aime, on en parle, on dit, hey, on n'a pas comme besoin de tellement d'étudier pour dire, pour savoir comment dire les choses. On fait juste en parler avec passion, avec courage. Puis même si la personne elle pense qu'on n'aime pas la bonne équipe puis qu'on n'aime pas le bon joueur, ben c'est pas grave, on va en parler plus fort encore. Puis on va jusqu'à temps qu'on arrive à lui prouver que c'est nous qui a raison ou que ben on s'entendra pas, puis on va continuer à s'estimer. Mais on en parle avec passion. Quand on réalise à quel point Dieu nous aime, on peut certainement demander à Dieu d'éteindre nos craintes. On peut certainement demander à Dieu de nous donner du courage. Mais partageons simplement ce qu'il fait dans nos vies. À quel point il est bon pour nous, à quel point il nous aime, à quel point il a pris soin de nous, à quel point il nous a transformés, à quel point il a eu un impact dans nos relations. Soyons motivés par un amour pour notre prochain. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Hein? Paul, tout de suite après sa conversion, il a voulu aller à Jérusalem, motivé par un amour pour ses frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu nous demande. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et c'est vraiment un bon moment pour chacun d'entre nous de venir à la table de la grâce. Parce que vous savez, Jésus, il était avec ses disciples. Puis il leur a donné la signification. Il a dit, quand il a pris le pain, il a pris la coupe, il a dit, ceci est mon corps. Puis je vais briser mon corps pour te donner la vie. Je vais faire, et en parlant de la coupe, il va dire, ceci est mon sang. Je vais faire couler, mon sang va être versé pour que tu puisses avoir la vie, le pardon de tes péchés. À chaque fois qu'on fait ça ensemble, Jésus nous demande de le faire en souvenir de lui, de se souvenir de ce qu'il a fait. Et encore une fois, c'est de se souvenir de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, pas de tout ce que nous on fait ou on fait pas pour lui, mais de vraiment aller à la table de la grâce et de réaliser que tout ce que j'ai, je l'ai parce que Jésus est allé chercher pour moi à la croix. Et ce matin, alors que tu vas avoir la coupe et le pain entre tes mains, pendant qu'on va chanter le chant, j'aimerais t'encourager de prendre un temps avec le Seigneur pour que tu puisses réfléchir à ce que Jésus a fait pour toi et que tu puisses réfléchir à l'expérience que tu as vécue avec Jésus et comment Jésus t'a transformé. Vous savez, c'est un bon moment quand on réalise qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. C'est un bon moment de confesser les choses qui sont plus importantes que lui. De confesser les péchés dans nos vies, peut-être qui sont récurrents. De confesser que peut-être que je vis une relation difficile, puis peut-être que c'est de ma faute, ou peut-être que je donne trop d'importance sur ce que la personne me fait subir. Mais c'est un bon moment pour confesser ça à Dieu, parce qu'on se rappelle que, hey, Jésus, t'es mort pour tout ça. T'es mort aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2000 ans, t'es mort pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir le pardon, que je puisse me savoir pardonner et me savoir en paix avec toi. Alors, prenons ce matin ensemble le repas du Seigneur avec reconnaissance. Avec cet esprit de reconnaissance et de confession, de confesser à Dieu nos péchés et de confesser qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'on a besoin de faire l'expérience de Jésus pour pouvoir vivre cette vie d'obéissance en tant que disciple de Jésus. Alors chantons ensemble et je vais revenir par la suite pour qu'on puisse prier pour prendre le repas du Seigneur.